d'être là lors de la sieste, un dimanche. Merci d'être là pour ce festival. Et alors, dans le cadre de ce salon du livre, dont, je le rappelle, les thèmes sont le patrimoine et l'imaginaire. Alors, évidemment, la forêt, c'est un patrimoine et c'est le lieu de l'imaginaire. À ma droite, Claudine Glot, bonjour.
Bonjour.
Alors, Claudine, vous êtes la présidente du Centre de l'imaginaire arthurien. Puisque nous parlons de la forêt, je vais citer deux de vos livres. On trouve tous les autres, je ne sais pas si on trouve tous les autres au Salon du Livre, mais quelques autres au Salon du Livre. Je vais citer ces deux-là, bien sûr, pour la forêt brocéliande. Guide secret de brocéliande. Et l'autre dont nous allons parler, c'est Bestiaire des légendes. Pierre Dubois, pour parler de la forêt. Pardon, mais c'est pas mal. Alors, Pierre Dubois, qui est un petit peu le... C'est pas vous qui les avez vraiment créés, c'est un peu comme Boris Cyrulnik et la résilience, mais c'est vous qui nous les avez fait connaître, les habitants de la forêt, Pierre Dubois. Vous avez écrit plusieurs livres. Moi, je parlais hier de l'Elphéméride. C'est un peu comme la haute couture, hein, saison automne-hiver.
Ouais.
Mais bien avant, l'encyclopédie des fées, des elfes, tous vos livres sont chez Webeck, hein, c'est beau livres. Donc Pierre Dubois, c'est vous qui avez mis au grand jour, je sais pas s'ils aiment tellement ça d'ailleurs être au grand jour, ces habitants de la forêt.
Oui, mais effectivement, enfin, je m'appelle Pierre Dubois, effectivement, le premier bouquin que j'ai écrit, en fait, c'est sur Robin des Bois. Donc, c'est vraiment...
Qui, d'ailleurs, s'appelle Robin la Capuche.
Voilà, Robin Hood, pas Robin Wood, justement, ça a été traduit Robin Bois, des Bois, mais c'est Robin Hood, c'est-à-dire Robin Capuchon. En fait, c'est un lutin vert, c'est l'esprit, peut-être le fils de l'homme vert, c'est le protecteur de la forêt. Ça va au-delà. D'ailleurs, même, je vais même jusqu'à dire qu'il n'est pas spécialement un bon archer, mais comme lorsqu'il lance sa flèche, il y a l'empennage de la flèche qui lui obéit, parce que quelqu'un rentre dans la forêt, il est averti aussitôt, il le sent en lui que quelqu'un vient, et il sonne dans Bugur, sa canne, son olifant. Et Robin des Bois, c'est vraiment l'homme de la forêt, c'est vraiment le...
Bugur, son olifant, c'est moi ou je comprends rien?
C'est Oliphant Man, c'est le...
C'est moi qui suis particulièrement...
Son brou, brou dans sa corne.
Son olifant.
Et donc, effectivement, je suis né dans les Ardennes, dans les Ardennes, donc qui est une immense forêt. Et c'est vrai, moi, qui crois vraiment en l'esprit des lieux, à l'atmosphère, que lorsque j'étais enfant et qu'on se promenait, je pense que les premiers paysages que j'ai vus, c'était des paysages de forêt infinie avec cette brume de dessus. Et je pense que ça m'a vraiment... Cette forêt m'a parlé tout de suite. Et mes parents ont quitté les Ardennes pour aller vivre dans le Nord, donc j'ai bien été obligé de suivre avec la cage à serin. Et là, j'ai été orphelin de ma forêt.
Ah, c'est beau, ça.
Ayant été orphelin de la forêt, j'ai dû la recréer sans cesse,
c'est beau.
Notamment dans mon jardin qui est devenu Sherwood, qui est devenu Brocéliande, qui est devenu la jungle, qui est devenu toutes les
c'est
forêts.
C'est pas un green de golf, quoi, le jardin.
Voilà. Et donc, la forêt est habitée, déjà par l'esprit des arbres, etc. Ce qui fait que j'ai été en relation, quelque part, ou en communion, ou en voisinage avec tous ces petits êtres, ces petits dieux de la forêt. Quoi.
Patrick Fishman, musicien, conteur. Patrick Fishman, conteur, musicien. Vous aussi, vous êtes au Salon du Livre, Patrick. Je citerai deux de vos livres. Les contes des sages gardiens de la terre, c'est un joli livre, c'est vraiment un bel objet, édité au Seuil, c'est une couverture en tissu, c'est un livre cousu, les illustrations sont belles. Moi j'adore ces bouquins, je cite les sages gardiens de la terre, mais c'est toute une collection, il y a beaucoup d'autres contes. Et puis le dernier né, Cœur des forêts à parler, et celui-ci est édité chez Rue du Monde. Donc nous parlerons de la forêt côté conteur musique, avec Pierre Dubois, nous venons de l'évoquer, de cet univers. Mais Claudine, vous pouvez peut-être nous dire un mot de cette forêt qui est en train de roussir maintenant, et puis peut-être plus particulièrement de Brocéliande. On n'est pas si loin que ça, hein.
Non, on n'est pas si loin que ça. Je vais faire comme Pierre, je vais quand même revenir à l'enfance, puisque tout commence, évidemment, on en est tous bien conscients, tout prend forme là. Et moi, je ne suis pas du tout de Bretagne, je suis de la Dordogne, qui est une région très forestée, plus que la Bretagne même, de grandes forêts de chênes et châtaigniers. Et je n'ai découvert que plus tard la peur de la forêt. La forêt, quand j'étais enfant, n'était qu'un lieu d'attrait, qu'un lieu dans lequel on avait envie de rentrer, un lieu de promesses, des promesses qui étaient des promesses de bruit, des promesses d'odeur. Il y avait du rêve dans la forêt. Plus on s'enfonçait dans la forêt, bon, à 5 ans, on ne s'enfonce pas très loin, mais on a l'impression que c'est très haut et très grand autour de vous. Plus on s'enfonçait dans les forêts, moi, c'était plus j'allais vers quelque chose qui m'attendait, qui m'attirait. Et c'est ce que j'ai retrouvé à Brocéliande, avec là, effectivement, peut-être un peu plus, non pas d'angoisse, mais une profondeur un peu plus sombre, parce qu'il y a un mystère plus grand, parce que notre forêt, nous la peuplons, et plus nous grandissons, plus nous allons la peupler de manière variée. Et dans Brocéliande, il y avait bien sûr ce mystère. Moi, je crois qu'on est nombreux à fonctionner comme ça. On fonctionne dans une torsade de liens qui sont sombres, qui sont dorés, qui sont colorés. Et chaque lien était une légende, un personnage, un ressenti, un sentiment. Et dans Brocéliande, j'ai retrouvé tout ça, et apportant bien sûr, moi, le fruit de mes lectures, parce que la forêt, la bibliothèque, c'est aussi ma forêt, et réciproquement. Et en rentrant dans Brocéliande, tout ça s'est fondu. Et j'ai retrouvé ma forêt d'enfance, plus beaucoup d'autres choses, mais qui étaient du mystère de mes lectures. Et ce mystère de mes lectures, je n'en suis toujours pas venue au bout. Et Brocéliande reste pour moi, à cause de ça, la forêt des forêts.
C'était quoi vos lectures, Claudine Glot ?
Mes lectures, c'était tout ce qui n'était pas réaliste. Voilà, en gros, c'était des contes, des légendes, des romans historiques, parce que quand on est gosse, on ne fait pas forcément le tri. Et moi, j'ai des contes, donc des contes, légendes, beaucoup, les mythologies, quand j'ai accédé à ce niveau-là. La
collection Rouge et Or, là, les contes et légendes ?
Les Nathan, mais toutes sortes de choses. J'avais la chance d'avoir ce qui était rare dans mon quartier à mon époque. On avait une bibliothèque, une vraie bibliothèque, c'est-à-dire un grand meuble avec des livres plein dedans. Et mon grand-père, qui était un vieil institut laïque, un hussard noir, quoi, avait décidé... Elle peut lire ce qu'elle veut. Si elle ne comprend pas, elle le laissera. Sinon, elle le lira. Et évidemment, c'était une bibliothèque extrêmement correcte. Je n'allais pas tomber sur des horreurs qui m'auraient troublé. Donc, j'ai lu tout ce qui se présentait. Et j'ai vite vu que, je ne sais pas bien la différence, mais un roman historique me plaisait. Un roman réaliste ne me plaisait pas. C'est-à-dire que je pouvais dévorer Dumas ou
mais
Hugo,
pas Zola.
Mais pas Zola, voilà. D'accord. Pas Zola, ça ne... Et même quelqu'un comme Maupassant, je l'appréciais beaucoup plus tard. Mais jusqu'à 10-12 ans, je voulais sortir du monde et rentrer dans un autre monde. Et même, et là, je sais que ça pourrait paraître choquant, mais moi, j'étais donc à l'école laïque, mais certains faisaient du catéchisme. Et j'adorais choper leur bouquin de catéchisme parce qu'il y avait une histoire magnifique qui, pour moi, était un conte merveilleux. Alors, évidemment, j'aurais raconté ça au curé de la paroisse, il n'aurait pas aimé, mais je ne le ferais pas. Donc il n'y a pas eu de choc frontal. Mais c'était tout ça, moi, que je rencontrais dans la forêt. C'était cette forêt du livre et cette forêt habitée de personnages, comme les pages et comme les étagères de ma bibliothèque.
Y avait-il des légendes qu'on vous racontait, des histoires, sur des personnages ?
Non, c'était... Alors ça, c'est quelque chose que j'ai compris beaucoup plus tard. Par comparaison, la Dordogne est une terre de passé très long. Franchement, nous, quelque chose du début de notre ère est déjà récent. C'est Lascaux, quand même, la Dordogne.
Oui,
c'est les grottes préhistoriques. Donc, il faut vraiment du vieux pour que ce soit très vieux pour nous.
D'accord.
Donc, l'histoire avait un poids très fort et les légendes étaient assez gommées. On avait quelques personnages ici ou là, mais on n'avait rien de comparable. C'est en arrivant en Bretagne. J'avais 20 ans quand je suis venue vivre en Bretagne. C'est là que j'ai compris à quel point on pouvait peupler le monde de créatures fantastiques. La Dordogne n'était pas un terrain si favorable à ça. Et j'y suis revenue depuis. On a reçu même au château de Compère des conteurs de Dordogne. J'ai acheté leurs livres, vu leur travail, et non, ce n'était pas une illusion, il n'y avait pas autant. Alors très curieusement, on pense à la Bretagne comme à un pays très chrétien, très catholique même, et on pense au sud, sud-est ou sud-ouest comme des terres qui sont plus résistantes à ça, ou qui ont éjecté la religion, ou qui ont pris d'autres voies. Or, la Bretagne a gardé toutes ses légendes, même celles dont le paganisme est très évident, affleure à la surface, alors que la Dordogne a des contes qui ont été, en a moins, et a des contes qui ont été très christianisés. C'est assez étrange comme le devenir du conte dans ces régions-là contredit le devenir sociologique, quoi, ou politique ou idéologique.
Peut-être que cette région de la Dordogne s'adapte plus parce que, par exemple, le protestantisme a aussi été... Oui. Accueilli dans cette région.
A été accueilli. On est peut-être une terre plus terre à terre, peut-être moins une terre de merveilles, peut-être parce que la vie est plus généreuse et plus facile. On se bat moins contre le réel. Le et breton, peut-être que du coup, oui, le breton. Oui. Je pense que dans l'âme bretonne, il y a aussi cette nature qui est quand même très rude. Oui. La vie n'est pas facile en Bretagne, que ce soit sur la terre ou sur la mer. Mmh. Il y a tellement de dangers, tellement de risques, c'était tellement compliqué qu'il y avait sûrement cet appel, ce besoin de passer au-delà et de se refaire ce monde en l'expliquant, en le créant, peut-être en se rassurant avec telle ou telle âme qui peuplait le monde. En Dordogne, il y a peut-être eu moins besoin de ça. La Dordogne a aussi été énormément... Enfin, la Dordogne, le sud-ouest, hein, l'Aquitaine, on va dire plus généralement, oui. A été aussi soumise à tellement de guerres. Je veux dire que pendant le Moyen-Âge, on a quand même eu... La guerre de Cent Ans a été assez rude. Alors, est-ce que c'est là que ça s'est joué ? Je ne sais pas. Mais au résultat, c'est très, très frappant pour moi. Les forêts de Dordogne étaient des lieux où j'adorais aller, Bon, on sait bien ce qu'on ressent quand on rentre dans une forêt, là, tout ce sentiment qui est entre le fait qu'on se retrouve, qu'on sent ruisseler en soi un courant vital nécessaire, qu'on respire. On respire autrement dès qu'on entre dans une forêt. La respiration se module sur... Donc c'est ce mélange, mais c'était un appel heureux. C'était un monde un peu édénique pour moi. Et qu'en Bretagne, c'est tout à fait autre chose. Il y a une gravité, il y a quelque chose de plus poignant. Mais... peut-être qu'à la limite, je préfère ne pas l'expliquer plus.
D'accord.
Non, mais oui, je comprends. Je me dérobe pas, c'est juste pour garder...
Mais ça n'a pas besoin...
À mettre trop de mots, voilà.
Ce n'est pas quelque chose qui s'explique, mais c'est quelque chose qui se ressent.
Qui se ressent. Et dans ce sens-là, je comprends bien que les légendes s'installent mieux ou viennent mieux à nous à travers ce genre de milieu, ce genre de forêt, qu'à travers un lieu trop simple. Maintenant, traverser la forêt Barade en pleine nuit, je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui encore toute seule.
Ce qui est intéressant, c'est que est-ce que la forêt est quelque chose qui protège et qui rassure, ou est-ce que la forêt est quelque chose qui angoisse, ou peut-être que ça dépend des époques aussi.
Pour se référer à ce que je connaîtrai le mieux, après je laisserai parler mes petits camarades, mais je pense que dans le roman médiéval, où on voit vraiment l'importance, où la forêt n'est pas un décor mais un personnage, c'est tour à tour les deux. La forêt de Tristan et Isolde est évidemment le seul lieu où les amants pourchassés vivent dans le bonheur, même si c'est dans le dénouement et la famine la plus totale. Mais la forêt, c'est aussi le lieu de l'épreuve, celui où on sait que vous attend la pire épreuve, et celui qui va vous grandir si vous franchissez cette épreuve. Mais la forêt peut rejeter celui qui n'en est pas digne. Et ça, c'est vraiment raconté à longueur de roman de la façon la plus simple. La forêt a cet instinct de qui est l'élu, de qui ne doit pas gagner, de qui n'est pas digne d'elle, de qui peut l'affronter, et elle va la récompenser. Elle va récompenser celui-là. Et elle va récompenser, évidemment, sous les aspects les plus aimables, le lieu aimable, le fameux Locus Amonus, et la dame.
La forêt ne se trompe jamais.
Jamais.
Avant de parler de la musique et de l'imaginaire de la forêt avec Patrick Fishman, Pierre Dubois, tous ces personnages dont vous nous parlez, que vous nous avez fait découvrir, ils ne sont pas en plaine, ils sont en forêt ? Ou je me trompe ?
Oui, ils sont en forêt, mais surtout donc moi j'ai d'abord donc connu ceux des Ardennes, la faune fantastique des Ardennes, et contrairement justement à ta forêt, Claudine, la forêt ardennaise est sombre. Elle est très noire, elle est sombre, elle est escarpée. Il y a la Semois qui passe, qui est une eau froide quand même, la Meuse, un tas de ruisseaux. Et les personnages qu'on y trouve ne sont pas spécialement sympathiques au départ. Alors c'est une forêt de refuge lorsque les quatre fils Aymon sont poursuivis par Charlemagne sur leur cheval Bayard, un cheval fantastique. Ils sont tous les quatre dessus. Chaque fois qu'il y en a un qui monte, le cheval grandit pour les accueillir. Et d'ailleurs, tout le long de quand j'étais enfant, donc on me disait que c'était le pas Bayard. Là, le cheval avait fracassé le roc d'un coup de sabot. C'était une forêt refuge, mais il y a beaucoup d'êtres sombres, noirs. Déjà, il y a Arduina. Il y a Arduina qui est la déesse des Ardennes, qui est une espèce de Diane chasseresse, mais qui est dans les histoires, elle est assez, elle est accompagnée de ses sangliers. Et bon, moi, j'ai enfant, je craignais un petit peu de tomber sur Arduina avec ses sangliers. C'est pas des loups, c'est sangliers, puis c'est une chasseresse. Et puis mes parents, évidemment, toutes les mamans, si tu vas là-bas, tu vas rencontrer. Donc il y avait les nutons qui sont des lutins. Il y avait les massautés que les dames aperçoivent toujours trop tard. Pardon. Il y avait les sautés aussi. Il y avait les pipi-vent-vent, il y avait énormément de... c'était des lutins à pleurs. Ils appelaient, si on les suivait, ils nous emmenaient de plus en plus loin dans la forêt. Évidemment, dans un précipice, il y avait énormément de diables. Le diable était aussi très présent. Et ce n'était pas un diable comme en Flandre ou dans certains trucs qu'on pouvait berner. On ne pouvait pas berner ce diable-là. Il remportait toujours... bon, bien sûr, de temps en temps, il y a un pont quand même. On arrivait à construire un pont en se jouant de lui quelquefois quand même, mais c'était rare. En général, le diable, là, avait le dessus. Il y avait le Mao, le Carnabo. C'était des personnages. Il y a notamment une espèce de dragon bizarre qui sortait de la Meuse et il allait dans les églises boire la paix, l'huile des lampes et dévorer les bougies. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin bon, c'est quand même très symbolique. Et il y avait aussi les loups. Donc c'était quand même une forêt que j'aimais beaucoup, parce que c'est une forêt refuge, je me suis dit, pour les rêves. Mais il fallait la mériter, quoi, cette forêt. Et pour revenir justement aux forêts qui rejettent, c'est ça aussi, c'est la manière dont on rentre dans la forêt. Si on fait obédience à la forêt, si on respecte les règles, si on rentre comme une espèce de bourriate en train d'écraser les champignons, si on ne la salue pas, cette forêt, elle va utiliser tout ce qu'il y a de plus dangereux dans la forêt. Elle va utiliser le regard des loups, elle va utiliser la hure du sanglier, les défenses, les griffes, les rides des arbres, tout le côté négatif. Elle va se montrer ogresse et dévorer l'intrus. Par contre, si on y va pour l'écouter, le faire alliance, écouter les sources, le chant des oiseaux, la respirer, là, elle peut utiliser tout ce qu'il y a de plus joli dans la forêt, utiliser les ailes des libellules, utiliser le bruit des sources, le chant des oiseaux, pour avoir une voix cristalline et se montrer belle à nul autre pareil. Quoi. C'est...
La forêt est une personne qui se respecte, qu'on doit respecter. Patrick Fishman, donc je rappelle, conteur, musicien. Et évidemment, Patrick, en tant que conteur et que musicien, j'ai envie d'évoquer deux choses de la forêt avec vous. La musique et, on a bien compris, et avec Pierre Dubois et avec Claudine Glot, l'imaginaire de la forêt. On commence peut-être par la musique.
Par la musique, c'est un lieu, comme il y en a d'autres, c'est un lieu de résonance. Il y a d'autres lieux de résonance comme ça que j'ai eu l'occasion de visiter et que je connais bien. C'est la steppe mongole, c'est l'océan. Et ce sont comme des portes. Sur un plan, pour que vous me suiviez un peu, il y a des chansons, par exemple, des chansons de forêt. Vous entendez ça? C'est les mêmes écarts pour les chansons de marins. La Danaé. Même chose en Mongolie. Il y a des lieux qui appellent des résonances, et notamment des harmoniques. C'est-à-dire qu'on nous entrons dans des espaces où il y a plusieurs plans qui peuvent coexister. Comme on a Noël Briam avec nous, je vais prendre une métaphore radiophonique. Imaginons que nous sommes un poste de radio. Nous captons France Inter, nous pouvons capter RTL et Radio Nova. Et je pense que dans la forêt, nous pouvons capter les trois. Alors, ça peut nous faire peur, ou ça peut aussi nous plaire beaucoup, selon notre sensibilité et puis ce qu'on entend. Parce que certains entendent, certains voient et certains sentent. Moi, je sens des choses en forêt, j'ai des présences, mais je ne les vois pas. Je connais des gens qui voient, d'autres qui entendent. Donc ça, c'est sur l'aspect des résonances. Il y a des résonances. Alors, je ne sais pas. Nous percevons, si on fait de la mythologie comparée, si on regarde un peu comment les différents peuples perçoivent le petit peuple, justement, on trouve des différences, mais on trouve quand même une grande similitude. C'est-à-dire que tous ces personnages se ressemblent un peu. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'ils existent sur ces plans que nous n'arrivons pas à capter? Ou est-ce que c'est comme ça qu'ils ont envie de se présenter à nous? Je ne sais pas. En tout cas, la forêt, c'est ce lieu-là. Et voilà, je peux répondre sur la partie d'imaginaire qui vient se greffer là-dessus. Henri en a parlé, Jodorowsky aussi, c'est l'imaginaire, on a souvent... On dit souvent que c'est un voilà, c'est pour le rêve, etc. Moi, je crois vraiment que c'est là que nous nous ancrons. Imaginez en ce moment que nous ayons conscience de tout ce qui se passe dans notre organisme. Toutes nos pensées, déjà, ça fait du monde. Notre estomac qui est en train de digérer, ce qui se passe dans l'intestin, comment un bobo est en train de se réparer, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'on est en train de causer avec notre mère qui est décédée sur un autre plan. Il se passe plein de trucs. Imaginez qu'on ait conscience de tout ça, on deviendrait vite fou. Mais nous avons l'imaginaire qui est là pour nous permettre d'approcher cette espèce de monde de résonance qui nous permet de donner des figures, de se représenter. Et ce qui est assez étonnant et magnifique, c'est qu'on trouve quand même des similitudes dans toutes les traditions, et notamment dans la forêt, sur les représentations qui s'y manifestent.
Claudine,
quand tu parlais de la mer, moi, ça m'a touchée beaucoup parce que pour moi, j'étais loin de la forêt a toujours été la mer. Et c'est une métaphore, c'est une comparaison qu'on retrouve très tôt dans la littérature. C'est la même chose. Les deux sont profondes, sont immenses, sont sans âge, et sous leur surface cachent les créatures les plus inouïes. Et aujourd'hui encore, tu vas dans une forêt. Alors, c'est pas la mer elle-même, c'est les bateaux, mais tu t'allonges. Et tu as au-dessus de toi de très grands arbres. Ça fait le même bruit que dans un port quand le vent passe dans les mâts et dans les accastillages. Tu as toujours cette... Quand tu parlais des Ardennes, quand tu montes sur une colline dans les Ardennes, ça roule devant toi comme les vagues de la houle t'emmènent loin sur la mer. Et c'est pour ça que je dis, quand je t'ai entendu, c'était exactement l'image que j'avais de la forêt. La forêt et la mer sont la même chose.
Les Philippins qui sont avec ces deux présences, comment retiennent-ils les épopées? Il y a un maître qui raconte une épopée, le disciple entend l'épopée une seule fois, et ensuite il doit aller retrouver l'épopée qu'il a entendue dans les frondaisons des arbres et dans le chant du vent qui va lui rappeler. C'est une chose qui existe encore aujourd'hui, hein, il y a des petits films là, qui circulent.
C'est l'histoire du vent, hein, le vent dans la forêt, voilà. Le vent sur la mer, le vent joue. Et ce que vous venez d'évoquer, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vécu, cette expérience qui est de se baigner au large. Quand on est en bateau et qu'on quitte la côte, mais qu'on la quitte vraiment, hein, qu'on la voit plus, et qu'on se baigne, on se sent... Même si on est bon nageur, on a quand même une espèce de trouille. Quand on sait qu'il y a des kilomètres en dessous et qu'on des kilomètres à l'ouest, à l'est, enfin qu'on est tout seul dans cette immensité, c'est grisant et c'est en même temps terrifiant. Et la forêt fait peut-être un petit peu ça aussi. Cette histoire d'imaginaire, Patrick, vous avez dit l'imaginaire, c'est pas une distraction, encore moins un amusement, c'est un indispensable.
Oui, qui est en même temps agréable, créatif. Oui, c'est quelque chose dont nous avons besoin. Moi, dans mon histoire, mon père est mort, j'étais très jeune devant moi. C'est grâce à l'imaginaire que je me suis tenu au monde, que j'ai fait des racines, que j'ai pu aussi... voilà, c'est vraiment une chose importante. À nos côtés, pas pour s'évader, mais pour pouvoir vivre en ce monde. Et ce que disait Jodo aussi... résister à cette grande solitude et la dépasser.
Solitude existentielle, ce n'est donc pas un anesthésiant, ni encore une fois quelque chose qui nous dévie de notre route, c'est quelque chose qui nous accompagne sur notre route.
Juste citer une phrase, parce qu'il y a quelque temps j'étais à un festival comme celui-ci, et on nous a donné un sujet, on était deux à devoir en discuter, j'ai eu un instant l'impression de repasser mon bac. C'était l'imaginaire pilier de notre humanité. Et depuis, cette phrase m'est restée, parce qu'au bout du compte, ce pilier de notre humanité, c'était ce qui nous distinguait peut-être des animaux. On ne sait pas leurs rêves, on ne sait pas leurs... Mais c'était comme L'homo habilis, la capacité de prendre, de saisir, d'avoir un outil, on dit ça distingue l'homme, le rire est le propre de l'homme, une certaine pensée cartésienne, raisonneuse est le propre de l'homme, et l'imaginaire aussi, et ce fondamental, avant tout le reste, ce qui nous distingue peut-être d'autres êtres de la création, c'est l'imaginaire, c'est la capacité de porter, de générer et de vivre avec un imaginaire. Et c'est vrai que ça, après avoir un peu renaclé devant cette phrase, elle continue beaucoup, beaucoup à me hanter, voilà.
Terrasson. Terrasson était un ami, mais qui était un personnage vraiment étonnant, qui occupait le bureau de Buffon au musée d'histoire naturelle, et qui, justement, avait une approche de la nature que j'aimais beaucoup. Et il avait écrit un bouquin qui s'appelait « La peur de la nature ». Et il dit, bon voilà, si on détruit la nature, c'est parce qu'on en a peur, parce qu'on n'arrive pas à faire alliance, justement, avec cette nature. Donc, il avait des élèves, et une grande épreuve des élèves, c'était qu'il les perdait dans la forêt. Il emmenait ses élèves, il n'avait pas le droit d'avoir de boussole, il n'avait pas le droit d'avoir un duvet, ils n'avaient rien du tout, même pas une lampe de poche, et ils s'enfonçaient dans la forêt, et les élèves allaient dormir une nuit, deux nuits quelquefois, et le lendemain, bah, ils faisaient l'appel, enfin s'ils n'avaient pas perdu en route, et ils devaient écrire ce qu'ils avaient ressenti à nouveau. Et c'était effectivement pour revenir aux sources de tout imaginaire, c'est-à-dire l'homme, notre ancêtre, l'homme qui brusquement rentre dans la forêt et redevient le petit poucet, redevient le petit chaperon rouge, redevient un personnage, un enfant quelque part qui découvre un monde, qui découvre un imaginaire, quelquefois qui n'imaginait même pas, et qui va se retrouver à cause des matières, à cause des... Et c'est vrai qu'il essayait qu'on refasse justement alliance avec les matières les moins agréables quelque part. Il aimait bien les marais, parce qu'on s'enfonçait dans les marais, retrouver le contact avec le marais, retrouver le contact avec des choses qui nous répugnent un petit peu. C'est vrai que maintenant, la forêt, il y a énormément de parcours de santé. On voit des joggeurs, des trucs cyclables. Il détestait aussi le fait qu'il y ait un endroit, un panorama. C'est là que c'est beau. Essayez-vous, là, regardez comme c'est beau. Non, c'est vraiment dans les intervalles. C'est là où on ne pense pas que ça va être beau, où on est surpris parce qu'il faut laisser sauvage la nature, qu'elle reste sauvage. Je sais très bien, par exemple, en parlant de la mer et de trucs, j'ai une trouille bleue de la mer. Je mettre un orteil dans l'eau, imaginer tout ce qu'il y a en dessous, je ne peux pas. Tandis que si je rentre dans la forêt, je suis chez moi. Je suis protégé dans la forêt. La forêt me raconte, la forêt me porte quelque part, c'est une maman, tandis que la mer, c'est pas une maman du tout. C'est une ogresse, elle sent mauvais. Tandis que la forêt sent bon, là. Non mais c'est vrai, la forêt sent bon. Ce Terrasson, justement, il est mort trop tôt, mais tous ses élèves, il essayait de leur rendre cette... Il était une fois, on rentre dans la forêt, et la manière dont on rentre dans la forêt, la suite de l'histoire va... c'est un peu les héros aussi qui passent à travers une forêt et qui vont à la fin trouver leur Graal, trouver s'accomplir. Et si, par exemple, il trouve un oiseau blessé, s'il le sauve, cet oiseau blessé se révélera plus tard peut-être un enchanteur dont il aura besoin. S'il voit une vieille, il ne faut pas qu'il soit repoussé par l'aspect de la sorcière, elle cache autre chose, elle le met à l'épreuve. Une simple fourmi, un hyménoptère aquatifisseur qui se noie dans la flotte, s'il le sauve, c'est à un moment donné où il en aura besoin, s'il tombe sur un ogre qui l'oblige à nettoyer une cave de d'une dune de Pila de semoule, il va faire appel aux fourmis, elles viendront d'ailleurs, ceux qui en fassent appel, et vont nettoyer toute cette cave en un clin d'œil. Il faut faire alliance avec cette forêt et avec la musique de cette forêt, ce qu'elle nous raconte. Et c'est ce qu'apprenait François Terrasson, quoi.
Vous avez évoqué quelque chose d'intéressant, c'est à propos de la peur de la forêt, et avec ce monsieur Terrasson qui dit finalement la nature, on la maltraite parce qu'elle nous fait peur. C'est votre combat quand même, Patrick Fishman, votre combat de conteur et de musicien, qu'on arrête de maltraiter la nature. Et finalement, on a beaucoup plus de problèmes pour ce qu'on fait de bien que pour ce qu'on fait de pas bien, parce qu'on inspire une certaine crainte.
Ce que je voudrais dire d'abord, et que je trouve qui est extrêmement précieux pour notre époque, quand vous êtes dans l'océan, quand vous êtes dans la steppe, et surtout quand vous êtes dans la forêt, la notion d'environnement n'existe pas. Nous n'avons rien à protéger qui nous environne. Nous ne sommes pas le centre des choses. Nous sommes des créatures parmi les créatures. Il y a des civilisations de fourmis, des civilisations d'abeilles. Dans la forêt, il y a un paquet de civilisations qui sont là. Et donc, quand vous êtes dans la forêt, vous n'avez pas d'environnement. Vous appartenez à la nature. J'avais vécu ça dans la steppe. Tout d'un coup, on se retrouve rien. On n'est rien, mais on est dans les bras du tout. Et ça, je connais moins, mais je connais des marins, je connais moins l'expérience maritime, mais ils le disent. Et en forêt, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu dans la forêt dense, chez les Indiens Kogi ou autres en Colombie. Vous êtes plongé dans un univers, la question d'environnement ne se pose pas. Et nous devons arrêter de nous poser la question de protéger l'environnement, mais tout simplement de nous comporter en créatures issues de la nature. Je pense qu'il faut arriver à... voilà, c'est pour ça que... Oui, protection de la nature, tout ça, mais je suis au-delà maintenant de ça. Au-delà, et ça rejoint ce que disait Jodo, il faut s'occuper aussi de nous, comment on est, comment on vit, que ce qu'on fait, et pas donner des leçons au monde entier, mais changer la mentalité, changer d'abord la nôtre, et puis nous émaner à nos positions d'artistes,
oui, pour que ce soit contagieux. Justement, protéger la nature, comme entretenir sa voiture, quoi. C'est pas un élément extérieur à notre service. C'est juste nous-mêmes. Quoi.
Mais là, il y a 21 siècles à remonter, ça va être dur. Hein, parce que la grande dichotomie, elle est bien là. Je te donne la nature et joue avec, a dit Dieu. En gros, c'est quand même à peu près ça. J'ai fabriqué le monde, je le donne à l'homme.
Oui, je ne sais pas, si c'est ce qu'il a dit ou pas.
C'est ce qu'on nous dit qu'il a dit, et on fonctionne là-dessus. Et là, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de mentalité à retourner. Hein.
Mais la nature va nous y aider, par la porte ou par la fenêtre. Vraisemblablement.
Je vois des mains qui se lèvent, c'est une impression, non ?
Je veux rebondir sur ce que disait Patrick et sur ce que j'ai entendu aussi ce matin de Pierre Dubois. J'ai l'impression que ce qui se joue, à travers l'exemple de la forêt, là, c'est l'unité. C'est retrouver une unité. L'unité, elle est dans nous, c'est-à-dire notre côté matériel, notre côté imaginaire à relier. Et c'est ça qui est l'enjeu. C'est ça qui est l'enjeu. Et quand tu parlais ce matin de réenchanter le monde, ça me titille toujours cette expression-là, parce que le monde, il est enchanté. C'est juste réenchanter notre vision. C'est juste réenchanter l'humain, le remettre dans cette acceptation des dimensions qu'on nie tout le temps. Et là, le pari, il est gagné. Et effectivement, il n'y a aucun environnement. Ce mot, il est absurde, il est horrible, et il bouche toute la vue de l'appartenance que nous sommes, une partie simplement de la nature. Mais donc, ce que je me disais, c'était qu'il y a effectivement cette question d'unité à retrouver avec l'imaginaire et avec la nature. On s'est coupé des deux côtés et on est là un petit grain de poussière qui part n'importe où et tout peut partir n'importe comment. Voilà. Dans la forêt, peut-être, ce qu'on trouve, c'est qu'on se refait un peu englobé par... on sort de notre... Excusez-moi, c'est une autre façon de dire, mais l'homme s'est dressé, on a dit... D'après les anthropologues, il s'est dressé pour pouvoir voir un peu plus loin dans la savane. Dans la forêt, il ne voit pas plus loin. Il se retrouve dans quelque chose qui l'enveloppe. Et du coup, il a une vision complètement différente de lui et de la nature. Et ça, c'est intéressant sur ce que la forêt peut nous donner.
Et en plus, dans la forêt, il est face à la seule autre créature qui est comme lui, debout. L'arbre et l'homme sont les seuls debout.
Debout, qui relie le ciel et la terre. Patrick, quelque chose à ajouter ?
Sur cette image, juste, l'homme, c'est simplement un arbre qui a soulevé ses racines. et puis qui a avancé. Voilà, enfin, je ne sais pas si ça... Enfin, moi, je me plais à imaginer ça comme ça, en tout cas.
Quand même, c'est tous ces contes qu'on connaît, tellement célèbres, qui se passent dans la forêt. Encore une fois, ils ne sont pas en plaine.
Non, non, parce que là, ils retrouvent justement une nature sauvage, ils se retrouvent dedans aussi, ils reviennent aux origines et là, ils ont leur chemin à faire, ils ont leur chemin à tracer éternellement. Mais d'ailleurs, les auteurs, parce qu'on dit souvent, il était une fois, c'était autant, hein, et on va dans le passé, etc. Effectivement, on va aux origines, mais les auteurs de science-fiction, lorsqu'ils étaient, parce que il y a quelque temps encore, les auteurs de science-fiction disaient en l'an 2000, voilà ce qui va se passer, etc. Et c'est ce même monde intemporel, celui d'imaginaire, celui de la forêt qui ressurgit, de cette nature qui ressurgit toujours, qui change, qui bouge, mais en fait qui ne change pas vraiment. Même si on la détruit, elle sera toujours là et elle risque de nous survivre. Même tant mieux pour elle. Mais je pense que ces thèmes-là, ces contes, ils sont ancrés en nous et avec ce même inconnu où on rentre dans un monde dont on fait partie, voilà. Mais il faut qu'on sache enfin qu'on en fait partie et qu'on se laisse porter, qu'on marche en même temps. C'est pas un adversaire, et c'est pas non plus à nous hein, lui panser les plaies. Quoi. On n'a pas besoin de. Si on ne le blessait pas, on n'aurait pas. Il y a cette espèce de marche. En même temps, dans un temps qui n'en finit pas, le temps du temps, l'imaginaire de l'imaginaire. Et ces contes sont là pour nous le rappeler. Et même les contes contemporains, en fait, ne le rappellent sans arrêt. Ça n'a guère changé, en fait.
Et alors, Patrick, qui est allé en Mongolie, il y a de la forêt en Mongolie ?
Oui, il y a des endroits où il y a de la forêt. Ce n'est pas le principal aspect de la nature, où il y a des forêts de mélèzes. Oui, oui.
Mais ça ne leur manque pas ?
Non, on est à 1500 mètres, c'est un immense plateau.
La montagne.
Ce que fait la steppe, c'est la même chose que la forêt sur le plan d'une immensité de nuages. Tu vois, tu regardes, là, il pleut, là-bas, il y a de l'orage, ici, il fait beau, tu vois, à 70 km. Et c'est quand même très voisin, bien que c'est un autre
paysage. Ah oui,
c'est
pas opposé. Paysage.
Non, pas du tout. C'est trois paysages que je connais, là, la forêt, l'océan et la steppe sont très... Bon, il y a des différences, mais ça provoque des choses assez... Je veux juste ajouter que je suis très content que tu aies parlé de François Terrasson. J'ai eu l'occasion de le côtoyer et relisez La peur de la nature. Oui. C'est un homme qui avait une belle radicalité, vraiment.
La peur de la nature de François Terrasson, c'est Claudine qui a soulevé ça.
Oui, parce que grâce à Pierre, je l'avais rencontré, j'avais été très frappée d'une démonstration toute simple qu'il faisait. On est tous là, on va tous dire on adore la forêt.
Merci.
Qui n'aime pas entrer dans la forêt, qui n'aime pas la nature. On aime tous la nature, mais s'il y a des ronces qui poussent au fond du jardin, on les arrache. Donc, pour lui, on n'aimait pas la nature. Il fallait laisser l'ortie, la mauvaise herbe, la ronce vivre, parce que c'est ce que tu disais, le marais, les choses pas aimées. C'était là qu'il voyait la nature. Et moi, ça m'avait vraiment amené à autre chose. Je l'avais jamais vu, la nature, comme ça. Je la voulais encore dans un ordre qui était un ordre humain. La forêt jolie, la forêt répondant à mes images d'enfance, répondant. Et non, c'est vraiment... retrouver la violence de la nature en toute chose, même dans la
sauvagerie.
La sauvagerie, c'est le même mot. Sylvie et le sauvage, c'est la même racine.
Oui.
Quoi. Et donc, ce qui m'amusait, ce qui m'interpellait un peu quand tu parlais de la steppe, en disant c'est l'océan, c'est la forêt, et c'est quand même la grande étendue herbeuse, c'est, si je me rappelle bien, Genghis Khan, c'était le camp océanique.
Oui, absolument.
L'océan, tu vois, et on retrouve, tout se reboucle, c'est quand même assez extraordinaire. Parce que c'était pas un homme du bord de la mer, vraiment.
Mais justement, à deux pas des jardins de Lenôtre, là, c'est ce Terrasson, justement, n'aimait pas trop le jardin La Française.
Ah, il aurait été formidable.
Vraiment, là. C'est vrai que par rapport au jardin anglais, mais même nos cimetières ressemblent à des parkings.
Le jardin anglais est tout aussi composé que le jardin La Française.
Oui, il est composé, mais...
C'est du faux vrai, en plus.
C'est
beaucoup plus
vrai.
Hypocrite. Je vais encore relancer la guerre.
Non, mais le...
C'est beaucoup de travail.
Et c'est beaucoup de travail, tout à fait.
Beaucoup de tronçonneuses sur...
Mais il y a quelque chose d'édénique que nous, on n'a pas vraiment. Quoi. Mais c'est vrai, je trouve aussi pour le dernier jardin, c'est-à-dire le cimetière, chez nous, c'est un parking avec les tombes comme des voitures, les unes à côté des autres, alors que le jardin anglais, c'est du gazon, il y a des fougères, il y a des bancs, il y a des arbres, des ifs.
Il y a la météo aussi un petit peu, Pierre.
Mais quand même, c'est... Oui, mais on le fait pas.
C'est des grandes pelouses, des belles dalles, des arbres qui, voilà.
Là, dans certains même coins, dans le Dartmoor, par exemple, j'ai vu des poneys, des petites ponettes du Dartmoor descendre et mettre bas sur les tombes. Et là, tu as la vie qui continue, le poulain qui va naître, les fleurs qui poussent au printemps, c'est plein de jonquilles, de bluebells. Enfin, c'est vraiment. Alors que nous, ne serait-ce que dans mon patelin, il y avait tout au fond du cimetière un coin réservé aux enfants qui sont morts depuis longtemps, quoi. Donc tout est rouillé, tout est abîmé et tout. Mais comme une espèce de... Comme si une fée ou un ange était passé par là, avait semé des grains de coquelicots. C'était rouge de coquelicots. Et le lendemain, le gars a mis du désherbant. C'est terrible. Faut que ça fasse propre, comme ils disent dans le Nord. Faut que ça fasse propre. Faut qu'on mange par terre. C'est terrible.
Qui veut dire un petit mot de conclusion pour la forêt, Patrick?
Quand ce sera le moment de la fin, je veux bien raconter une toute petite histoire.
Allez.
Oui?
Oui, vas-y.
C'est une très petite histoire. C'est deux petits vers de terre qui sont là dans l'humus. Et puis il y en a un qui dit à l'autre, je ne sais pas ce que les hommes ont déversé, franchement, mais les pluies acides, ça ne nous fait pas du bien. Et l'autre, elle a du mal à respirer. Ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, l'autre, elle a vraiment beaucoup de mal à respirer. L'autre, elle dit, arrête de travailler. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Et elle dit, si je continue de travailler. Je suis pour un accent marseillais, je ne sais pas pourquoi. Il dit, Gisèle, arrête-toi. Et le troisième jour, là, un des deux petits vers de terre est mort. Et juste avant de mourir, il a dit à l'autre, prends bien soin des hommes. Voilà, la nature n'accuse pas l'homme, elle nous attend.
Joli, Patrick Fishman. Donc, Sage gardien de la terre, édité au Seuil, et puis Cœur des forêts à parler, rue du Monde. Pierre Dubois, les grandes encyclopédies des fées chez Webeck, là-haut aussi, et puis l'Elphéméride. Un petit mot de conclusion pour la forêt?
Qu'elle demeure. Je crois que c'est bien de retrouver l'imaginaire de la forêt, que la forêt soit pas uniquement une réserve de bois. Moi, je vois par exemple, j'habite près de la forêt de Mormal. Et en ce moment, les Chinois viennent acheter les grands arbres et on voit les grands fûts qui partent les uns après les autres. On a l'impression qu'on plante des poireaux, qu'on fait une réserve de plantes. Même ma forêt des Ardennes que j'aimais tant, qui était celle dans laquelle venait rêver Julien Gracq en disant que c'était là que tous les esprits, les fées... les femmes sauvages, il citait même Peggy dans Sombre Mai, avec ces femmes sauvages qui ont des feuilles sur le visage et des yeux de biche. On est en train de la massacrer pour mettre des sapins, quoi, hein, pour mettre du sapin, voilà. Donc je souhaite que l'imaginaire... reviennent dans ces forêts. C'est vrai qu'on ne nous apprend pas, on ne nous apprend plus à l'école. Ce serait bien même déjà à l'école de retrouver tous ces contes qui parlent de la forêt, de la nature, qui nous refassent rêver et nous donnent envie de vivre dans un monde qui serait quand même autre que ce qu'on nous oblige à vivre, qu'on revienne... c'est crétin ce que je dis, mais et c'est vrai, quoi, si tu veux. Moi, ce qui est différent, c'est ce que je racontais ce matin, c'est que les enfants, on les met à l'école, ils sont pleins de rêves, ils sortent de quelque part, d'un monde de fées, enfin, ils sont prêts à tous les imaginaires, ils savent pas vraiment dessiner, mais on leur apprend à dessiner, ils sont émerveillés par le dessin, ils découvrent la musique, ils peuvent chanter, ils peuvent faire du théâtre, ils peuvent tout faire, c'est incroyable. On leur met une araignée dans la main, regarde comme elle est jolie, il y a pas ce dégoût, c'est après que ça vient, quoi. L'enfant lui apprend, on l'ouvre à tout, et puis brusquement, arrivé à l'âge de raison, on lui dit tout ça, ça sert à rien. Éventuellement, la musique, tout comme ça, ça peut te servir en option pour ton bac. Mais maintenant, tu passes à quelque chose de plus sérieux. Brusquement, l'enfant, il y a toute une partie de lui, de l'imaginaire, de ce qu'il croyait, de ce qu'on lui avait fait miroiter, de toute une partie d'émotionnel, qu'on va lui dézinguer. Et si plus tard, il se paume en avion dans le désert et qu'il y a un petit gamin qui lui demande de lui dessiner un mouton, simplement son papa, même s'il est devenu ingénieur et je ne sais trop quoi, et que son gamin lui dit « Papa, dessine-moi un mouton », il va dessiner une espèce de souris informe, comme il l'a dessiné pour la dernière fois à l'âge de 5-6 ans. Il n'a pas appris à dessiner. Mais pour le reste, pour son imaginaire, non plus. Il a été blousé. Il y a tout un côté qu'on lui a retiré et qu'il aurait pu, justement, si on avait voulu que ce côté, cette part de lui enchanté, quelque part, grandisse et apporte quelque chose d'autre au lieu de couper tout ça.
Et tu vois, là, moi, pour une fois, je ne vais pas être tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense à notre génération, on est allé à l'école. L'école a fait son boulot, celui qu'elle ne fait plus tout à fait, là, tu sais, lire et compter. Ça, elle l'a fait, mais on n'avait pas, mais le reste du temps, on était libre dans nos imaginaires. On avait un jardin, un petit bout de jardin, on allait dans la forêt, on allait, même les fêtes foraines étaient des merveilles, quoi, qui brillaient, qui nous illuminaient les journées d'hiver. On n'avait pas des imaginaires de substitution, comme on en a à longueur de temps aujourd'hui, des images dictées, des images formatées d'une part, et on nous laissait libres de tout ça, et on n'avait pas non plus le sentiment qu'il y a aujourd'hui, on rentabilise l'enfant. Il ne faut pas qu'il ait de temps libre, il faut qu'il apprenne à jouer du tennis, parce que ça lui servira. Puis apprends le golf, parce que si tu veux devenir cadre d'entreprise, il faut savoir jouer au golf avec ton patron. On nous foutait beaucoup plus la paix, et c'est là qu'on s'épanouissait. Et je ne crois pas vraiment que l'école ait été coupable de quoi que ce soit. L'école, elle nous donnait la base. On y était bien ou on n'y était pas bien, mais on en sortait et ça, voilà, c'était fait et on avait autre chose qui nous attendait. Aujourd'hui, on est complètement pris, il n'y a plus jamais de ce temps libre et même en adulte, on continue comme ça. Ah, j'ai du temps libre, je ferais mieux d'aller faire un jogging. Non, je ferais mieux de m'étaler, de prendre un livre de poèmes et ça serait pas mal non plus, ou d'aller respirer dans le jardin. Enfin, je pense qu'il y a les deux choses qui jouent. Pour réenchanter ou retrouver les chemins de nos imaginaires, il faudrait aussi savoir se dépouiller de tout ça.
Je crois que sur cette bonne parole, on va vous laisser libre alors. Je n'ai pas recité votre livre. Hein. Guide secret de Brocéliande et bestiaire des légendes pour Claudine.